Nous avons tous certaines obsessions d'abord, mais en plus de ça, je préfère de beaucoup un garçon qui a certains vices et qui est indulgent aux vices des autres qu'un monsieur qui est parfaitement vertueux et intolérant.
Les filles, vous m'entendez ?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire ?
Oui, 40 ans après sa mort, il reste un mystère, une légende noire, celle d'un cinéaste démiurge à la recherche d'une forme idéale, un chercheur d'absolu. Trois lettres initiales, HGC, inscrit sur notre affiche ce matin, celle d'Henri-Georges Clouzot. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous, croix.
Qu'on a vu ces films, Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, La Vérité, entre autres, on a admiré ses ombres et ses lumières, ses dialogues cinglants, sa description de nos névroses, ses suspens et sa curiosité pour toutes les formes d'expression, mais le dossier n'était pas complet. Bonjour Noël Herp.
Bonjour.
Historien du cinéma, entre autres, la Cinémathèque française vous a confié les archives Clouzot, un fonds phénoménal d'informations, lettres, dessins, maquettes, storyboards, photos qui vont faire l'objet d'une expo à la Cinémathèque à partir du 8 novembre prochain. Expo dont vous êtes le commissaire, sans compter rétrospective sur grand écran, coffret DVD, doc et livres, nous y reviendrons. Avec vous Noël, nous allons redécouvrir une œuvre intacte dans sa modernité, le cinéma d'Henri-Georges Clouzot. Ensuite, nous évoquerons les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma entre Macaigne et Soderbergh, Brooklyn Yiddish, Corps et âme ou Des bobines et des hommes. Noël Herb, je suppose que pour l'historien de cinéma que vous êtes, avoir en main ce fond Clouzot, ses lettres, ses mots, ses croquis, ses storyboards, c'est un trésor à la fois émouvant et saisissant, non, comme une explication de film.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, on découvre un Clouzot qui a écrit beaucoup, qui n'était pas un écrivain, mais qui a beaucoup écrit sur son idée du cinéma, ce qu'il pensait que devait être le cinéma, et surtout à la fin de sa vie. Ce qui est passionnant, c'est que ce fond documente toute une période de la fin de vie de Clouzot, enfin, la fin de vie, disons, à partir des années 60, après la mort de sa première femme, Vera. Il plonge dans une dépression. Il y a toute l'époque où il va faire L'Enfer, puis La Prisonnière, qui sont des films plus difficiles, plus expérimentaux. Et entre ces films, il s'interroge, il fait des listes de films policiers, les règles du genre policier, Café Truffaut, Café Hitchcock, Café Fritz Lang. Donc c'est hallucinant de le voir redevenir un écolier, comme dans Le Corbeau, revenir sur les bancs de l'école et essayer de réapprendre son métier avec une humilité incroyable et en même temps un désir de toujours mieux faire, de toujours perfectionner la forme du récit.
Et un côté obsessionnel comme toujours chez lui.
Absolument, obsessionnel certainement et en même temps épris de perfection. Et c'est ce que disait Simone Signoret d'ailleurs, que Clouzot était toujours un élève appliqué et qui veut toujours mieux faire. Et ça, je trouve ça très touchant chez lui. C'est quelqu'un qui s'est jamais assis, qui s'est jamais reposé sur ses lauriers et qui a cherché jusqu'à la fin quelque chose de nouveau.
Dans ce fond, il y a notamment les correspondances avec sa mère. Est-ce que c'est pas un peu le nœud gordien de sa vie? Un peu, j'ai l'impression qu'elle ressemble pas mal à la mère de Romain Gary. Elle avait les plus hautes ambitions pour lui dès l'enfance. Elle l'habituait à n'exiger rien moins que la perfection.
Oui, Clouzot et sa mère, c'est un sujet. C'est pas par hasard s'il en a fait un merveilleux film qui s'appelle Miquette et sa mère et qui raconte justement une jeune fille qui veut monter à Paris et qui entraîne sa mère dans sa carrière théâtrale. Et on découvre quand on lit l'importante correspondance de Clouzot avec sa mère, qui devrait bien faire l'objet d'une publication séparée d'ailleurs, que Clouzot, dans sa jeunesse, adorait le théâtre. Il lisait Pirandello, il lisait le théâtre de boulevard. Il lisait les pièces qu'écrivait sa mère. Sa mère lisait ses pièces. Ensuite, il va au sanatorium, donc il demande à sa mère de lui envoyer des pièces. Il travaille avec des gens du boulevard, comme René Dorin, comme Maurice Yvain. Mais il y a toujours ce lien avec la mère qui reste très présent. Jusque dans les années 50, même quand il travaille avec Picasso, il raconte tout à sa mère.
Et quand son frère naît, il dit « Clouzot, c'est moi ».
Oui. Alors il y a
le seul.
Oui,
le
parce
seul.
Que le père était quelqu'un d'effacé, d'écrasé,
totalement absent.
Absent. Et c'est vrai que c'est Henri-Georges qui a pris la famille en main. Et les deux frères ont été un peu écrasés par lui, et notamment son frère Jean, qui est devenu en fait son co-scénariste et qui a travaillé à plusieurs de ses films, mais sous un pseudonyme.
Vous parlez des 4 années de sanatorium qui sont hyper importantes. Il avait une tuberculose, donc ça lui a permis de lire Joyce, Voltaire, Thomas Mann, Cocteau, Peggy. C'est vous qui le dites. Plus le théâtre, et puis redécouvrir la peinture, etc.
Et Proust,
bien sûr, à la recherche du temps perdu. Il disait un truc très fort, il faut transformer l'échec des maladies en victoire.
Oui, car il a eu les maladies, il les a toutes eues. Hein. Il a été tuberculeux, il a été cardiaque, il était obsessionnel et dépressif, et peut-être sans doute maniaco-dépressif. Oui. Il avait une sexualité un peu bizarre. Il cumulait, hein, c'était un cumulard, Clouseau. Bah, il était sadomaso, quoi. Il aimait, voilà, fétichiste aussi. Oui. Il avait un rapport aux femmes qui était quand même assez dominateur. Et en même temps, je pense qu'il aimait, il avait un côté aussi, il était capable de switcher. Il avait un côté maso.
Dominé.
Il aimait se faire, oui, en tout cas, moralement. Oui, il y a un côté maso, il y a un masochisme moral chez lui, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi un peu plus que ça. En tout cas, voilà, c'est un homme qui est traversé par la souffrance, qui à partir de ça crée une interrogation à la fois métaphysique, parce qu'il s'interroge sur la religion, même s'il n'est pas vraiment croyant. Enfin, il prétend se convertir à la fin de sa vie sous l'influence de sa seconde épouse, Inès. Je suis pas sûr qu'il croyait vraiment en Dieu, mais il a une espèce d'obsession du néant, d'obsession de la mort, d'obsession de la mort toujours présente qui peut lui arriver à chaque instant. En fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours en sursis. Mmh. Et son cinéma est fait de cette tension, de ce suspense, de cet équilibre instable entre la vie et la mort, entre l'instant présent et le danger à venir. C'est un cinéma sous tension.
Après un séjour du travail à Berlin, où il supervisait les versions françaises de films allemands, où il découvre l'expressionnisme, Murnau et Lang notamment, après ça, à 33 ans, il est engagé à la Continentale, on le rappelle, pendant la guerre, studio de cinéma détenu par les propriétés allemandes. Et c'est là qu'il va tourner Le Corbeau. On va y résumer parce qu'on va entendre très vite un extrait. Le docteur Germain, qui est incarné par Pierre Fresnay, travaille dans une petite ville de province, Clouseau connaît bien ça, Niort, reçoit des lettres anonymes signées Le Corbeau l'accusant de plusieurs méfaits. Il n'est pas le seul à en recevoir, toute la ville est bientôt menacée. Je vous propose d'écouter cet extrait entre le bien et le mal, version Clouseau, sous une lampe, sous l'ombre et la lumière, entre le docteur Vorzès et Pierre Larquet, et le docteur Germain, c'est Pierre Fresnay.
Vous avez tout du vieil Horace, moins la barbe. Et encore, vous avez une barbe virtuelle, c'est peut-être plus beau.
Enfin, mon cher, tout de même, quand vous rencontrez une mauvaise bête.
J'en rencontre une chaque matin, dans ma glace, accompagné d'un ange. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière, et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté?
De littérature. Il n'y a qu'à arrêter la lampe.
Arrêtez-la. Vous êtes brûlé. Vous voyez, l'expérience est concluante. Tenez, je vous aime bien. Je vais vous faire une confidence. Je me drogue. Je me pique. C'est pour moi que Marie Corbin subtilisait à la pharmacie les ampoules de morphine, parce qu'elle a une vieille passion pour son ex-fiancé. Et je ne me prends pas pour un monstre, vous savez. Méditez là-dessus, jeune homme, et faites votre examen de conscience. Vous serez peut-être étonné des résultats.
Je me connais.
Orgueilleux. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres. Vous tomberez comme eux. Oh, je ne dis pas que vous étranglerez votre maîtresse, non. Mais vous fouillerez ma serviette si je l'oublie sur ce bureau. Et vous coucherez avec Rolande si elle est amoureuse de vous. On n'a que le choix, vous savez.
On voit que vous avez l'habitude de soigner les fous.
À votre service.
Noël Herp tournait un film sur la dénonciation en 42. En France, c'est quand même incroyable encore. Moi, j'ai revu le film récemment, la revue le film à Lyon. D'ailleurs, les films vont ressortir sur grand écran, allez-y, quoi. Mais à 10h du matin, une salle pleine, le film est poisseux. Encore,
poisseux et poignant, oui.
Et poignant, ouais.
Bah effectivement, c'est un tour de force qu'il est arrivé à réaliser justement parce qu'il travaillait pour la Continentale, qui était une société allemande faisant travailler des cinéastes français, mais avec quand même une certaine marge de manœuvre et elle, qui n'était pas soumise comme telle à la censure de Vichy. Donc c'est ce qui a permis que le film soit produit. Ça s'est pas très bien passé quand même avec Alfred Greven qui à la fin a quand même engueulé Clouseau et qui
le patron Clouseau, de la Continentale,
qui était le patron de la Continentale et finalement Clouseau est parti en claquant la porte. Ensuite, ça a attiré des ennuis beaucoup plus graves encore à Clouseau puisque le film a été accusé de servir la propagande nazie.
Ouais.
On a prétendu qu'il avait été projeté en Allemagne sous le titre Une petite ville française, ce qui était totalement faux. Donc du coup, Clouseau s'est retrouvé interdit de filmer pendant deux ans.
Ouais.
Le Corbeau a fait partie des trois films Continentales interdits à la Libération.
Ouais.
Je pense que le film ne servait évidemment ni la propagande de Vichy, ni la propagande de la Résistance, puisqu'il montrait une France rien moins qu'héroïque, une France minable, une France dégueulasse en fait, la France des salauds.
Ouais.
Et en même temps, la France des salauds qui sont confondus avec les honnêtes gens, car ces salauds, c'est vous et moi, nous dit Clouseau.
C'était la première fois.
Chacun de nous
vrai, hein, qui s'était passé à Tulle.
Absolument, c'était l'affaire de Tulle qui avait eu lieu en 1917, enfin qui s'était étalée sur plusieurs années, et c'était une femme qui avait été confondue, donc l'histoire avait défrayé la chronique, mais le scénario avait été déposé par Louis Chavance dès 1937, donc on peut pas dire non plus que c'était un scénario de circonstance. Et Clouzot l'a récupéré, l'a encore noirci, l'a rendu encore plus pessimiste, nihiliste, ricanant et sombre. Il y a des scènes extraordinaires comme celle de l'enterrement du suicidé, où on découvre une lettre qui tombe du cercueil, ou une lettre qui tombe des voûtes de l'église, au moment où on s'y attend le moins. Ça, c'est vraiment la perversité de Clouzot et son goût de se servir de la culture catholique et provinciale pour la subvertir de l'intérieur et pour la bafouer et pour la ridiculiser.
Je parlais de Murnau et Lang, mais c'est vrai qu'il s'en sert extraordinairement bien. Des ombres, notamment, qui évoquent le dédoublement de personnalité de ses protagonistes.
Il y a les effets d'ombre et de lumière. Ouais. Il y a aussi le point de vue du mort avec l'enterrement vu du point de vue du mort qui rappelle Vampire de Dreyer. Il y a des effets comme ça qui renvoient à l'expressionnisme. Bien sûr, je pense que Clouzot, comme toute sa génération d'ailleurs, était très marqué par cette période du cinéma allemand. Mais il faut pas minimiser non plus l'influence du cinéma américain. Et je pense qu'il est peut-être plus sensible dans le rythme de son cinéma. Oui. C'est ce qu'il apporte de très moderne. C'est que dans L'Assassin Bito 21, qui est son premier long métrage pour la Continentale, puis dans Le Corbeau, et ne parlons pas de Quai des Orfèvres, il impose un rythme extrêmement soutenu. C'est monté cut, ça va vite. Ça parle de sexualité aussi. Je crois que c'est la grande nouveauté de Clouzot, c'est qu'il parle des rapports entre les hommes et les femmes d'une manière qu'on ne pratiquait pas du tout à l'époque. C'est d'ailleurs, il appelle un chat, on parle d'avortement, on parle de drogue. Il y a chez lui un côté souleveur de tabou qui est extrêmement original dans le cinéma de l'époque et surtout dans le cinéma de l'occupation.
Même les enfants sont des salauds dans le film.
Même les enfants, la petite...
Ça va très loin. Hein,
ouais. Même les enfants, même surtout les enfants.
Surtout les enfants, oui, encore pire. Quoi.
Ce personnage, Rolande, dont on parlait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la petite adolescente Liliane Meynier, qui vient épier les secrets des adultes et puis qui pleurniche quand Pierre Freinet couche avec la boiteuse, la pute, on peut le dire, Ginette Leclerc. Enfin, tout ça, c'est hallucinant quand on y pense qu'un film comme ça ait pu être réalisé et soit sorti avec succès en 43.
J'ai pensé à Pasolini en voyant ce film, un peu, vous voyez, dans le climat.
Oui, je dirais même que ça annonce un peu Fassbinder.
Oui, aussi, exactement.
Un théâtre de la cruauté.
Oui.
Un désir de montrer l'être humain dans sa nudité.
Petit cadeau en passant pour vous, l'avant-scène cinéma publie le scénario intégral du Corbeau avec un beau dossier documentaire, ça vaut vraiment le coup.
Je vais le relire avec délice. Hein.
Alors, effectivement, Clouzot aimait beaucoup les faits divers, le musical et Suzy de l'air. Et donc, tout ça est réuni dans Quai des Orfèvres, extrait.
Vous m'en voulez, hein? Et vous pensez que je vous en veux?
J'aimerais mieux ne rien avoir à faire avec vous.
Ah, c'est pas de ma faute, je m'occupe de Brignon. Et lui, s'est occupé de vous. Tout se tient.
Oui, bah moi, je me suis pas occupé de Brignon. Vous perdez votre temps ici.
Ah, là, nous sommes plus d'accord. Et je suis sûr que si vous vouliez, vous pourriez m'aider, drôlement.
Bien sûr. Je n'aurais qu'à vous signer une déclaration sur papier timbré. Je reconnais avoir tué le nommé Brignon. Ça vous arrangerait, hein?
Non, parce que c'est pas vous. Vous n'y aviez pas intérêt. Mais vous savez qui a tué.
Moi?
Et vous voulez pas le dire. Parce qu'il faudrait dire aussi, j'étais chez Brignon le soir du crime.
C'est faux!
Brignon n'a pas été votre nom?
Vous n'avez pas le droit de parler comme ça.
Oh, sans blague. Ça n'aurait pas été le premier. Vous n'allez pas jouer les vertus, je vous connais, vous savez. Vous êtes une petite arriviste.
Arriviste? Qu'est-ce que ça veut dire, arriviste? Mon pauvre ami. Je suis née rue de l'Entrepôt, en plein hiver. Dans un logement de deux pièces. Nous étions six là-dedans, j'y suis restée 12 ans. 12 ans à entendre gueuler la concierge dans la cour à cause des terres mortards. Et le mal à l'estomac, bicose la charcuterie. Et la toilette sur l'évier. Et mon père qui a mis 6 ans à claquer dans le cagibi du fond sans avoir revu le soleil. C'est être arriviste que de vouloir en sortir.
Évidemment. Moi, mon père, il vivait dans un beau château, au milieu d'un parc. Il était larbin. On le payait pour nettoyer les saletés des autres. J'ai pris la suite.
Quel des enfants, vous disiez, c'est très d'actualité, Noël R.
Bah oui, on est Brignon étant un peu le précurseur de Weinstein, le personnage de Brignon joué par Charles Dullin, le vieux dégoûtant qui fait photographier des filles nues, mais faut pas enlever les chaussures, hein, surtout pas les chaussures. Bon, voilà, effectivement, mais voilà, il pourrait juger Clouzot, il pourrait dire c'est dégueulasse, etc. Et il est jamais dans le jugement moral. Il regarde les êtres humains un peu comme un entomologiste, hein, comme des insectes avec un microscope. Il les regarde comme je disais dans leur nudité, dans leur vérité. Souvent minable et en même temps sublime. Le personnage de Suzy de l'air, ben oui, c'est une fille qui est prête à coucher pour arriver, qui est prête à beaucoup de choses, et en même temps, on n'arrive pas à lui jeter la pierre. Et le couple qu'elle forme avec Bernard Blier est traversé par cette épreuve de la jalousie, du crime possible commis ou imaginé, hein, puisqu'on sait, on ne sait pas jusqu'à la fin du film qui a commis ce crime, mais il ressort grandi de l'épreuve, et je trouve que c'est son film le plus humain. Jouvet disait d'ailleurs à juste titre, en parlant à Blier sur le tournage, je disais, mais tu sais, Clouzot, c'est un mec dans le genre de Dickens.
Oui.
Et je trouve ça assez juste. juste, c'est vraiment quelqu'un qui montre les personnages dans leur misère, mais en même temps qui les aime.
Suzy Delaire, qui fêtera, il faut le dire, le 31 décembre prochain, c'est 100 ans, et qui a confié sa robe, son petit tralala, à la Cinémathèque. On la verra, la robe.
Voilà, absolument. C'est un scoop. C'est une grande première. Je crois que c'est tout.
Enfin, sans le tralala, c'est moins intéressant, si je puis me permettre.
Oui.
Enfin, bon.
À moins qu'on considère que la postiche qui a voilà, cette robe constitue le symbole du tralala. C'était très drôle, d'ailleurs, quand je chantais cette chanson, quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait, je chantais ça sur la terrasse de notre maison à Cancale.
Bien sûr.
Je chantais ça, elle me disait, mais tu sais ce que c'est que le tralala? Non, mamie, je ne sais pas.
Ce qui est intéressant,
mais la musique est tellement charmante.
Ce qui est intéressant chez Delaire, c'est que, comme toujours chez Clouseau, peut-être à part pour le salaire de la peur, ce sont les femmes qui mènent le monde.
Absolument. Ginette Leclerc dans Le Corbeau, qui est déjà un personnage extrêmement volontaire.
Simone Signoret dans Les Diaboliques.
Simone Signoret dans Les Diaboliques. Et même Brigitte Bardot, qui est un personnage, je dirais pas féministe, mais enfin, ce sont des femmes fortes.
Voilà.
Et qui se révoltent contre la société et qui disent leur fait aux hommes.
Vous évoquiez ce film, Le Salaire de la Peur, on y arrive. Date de sortie 1953, Yves Montand, Charles Vanel notamment. En Amérique centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 km de piste. On va évoquer ce tournage absolument hallucinant, mais avant, on va écouter un extrait entre Yves Montand justement et Charles Vanel, Montand qui vient de lui passer sur la jambe dans une scène dramatique.
Alors, eh oh, Dijon !
Oh, j'ai mal, ma jambe.
Tu pouvais pas te garer, non ? Tu trouves pas qu'on est à s'emmerder comme ça ?
Fumier, ben, tu l'as vu que tu passais sur moi. Il est passé quand même, sur ton copain.
Copain ou pas copain, pas les que je passe.
Tu me fais mal. Tu me fais mal.
C'est ta faute. Je te l'ai assez crié de dégager, hein. Tu n'avais pas hésité, tiens.
Oh, t'as hésité.
Parfaitement. Ça en serait déjà sur l'autre bord. Grâce à toi, toutes les acrobaties qu'on s'est tapées, c'est zéro.
On est plus dans la course.
Et on n'a même pas sauté, tiens. On s'est enlisés comme des culs terreux avec leurs tombereaux. Ah, on a bonne mine.
Fais quelque chose. Et tu te rends pas compte.
Tu parles comme j'ai le temps.
Mario. Je souffre. Mario.
Car repose-toi. Tu avais envie de rester sans rien foutre. Eh ben, t'as gagné maintenant. T'es content.
Noël R, plus à l'heure de la peur, un film d'aventure en décor naturel et dont les Américains sont inspirés. Moi, j'aime beaucoup le remake de Friedkin hein, qui s'appelle The Sorcerer. Qu'est-ce qu'il apportait de nouveau à l'époque, ce film ?
Ah bah justement, ce style à l'américaine, ce style très soutenu, très tendu, ce côté efficace, ce côté thriller qu'on voyait pas tellement dans le cinéma de l'époque, qui était plutôt un cinéma d'énigmes, de whodunit à l'anglaise. Mais là, tout d'un coup, il y a un suspense qui évoque évidemment le cinéma de Hitchcock. Mais il y a aussi une dimension importante dans ce film, qui est la dimension documentaire. Il nourrit la fiction extrêmement spectaculaire du Salaire de la Peur. On est pris sur son fauteuil d'un bout à l'autre du film par une première partie d'une heure qui est assez ennuyeuse, mais qui permet d'asseoir la crédibilité psychologique des personnages et leur ancrage social, ou plutôt leur absence d'ancrage social, puisque ce sont des olvidados, des SDF, comme on dirait aujourd'hui, des pauvres mecs qui sont perdus au fin fond de l'Amérique latine et qui n'aspirent qu'à quitter le bled pourri où ils ont échoué. Donc il y a vraiment une vision documentaire évidemment reconstruite, puisque il n'avait pas pu faire le documentaire sur le Brésil dont il avait rêvé et il tourne Le Salaire de la Peur en Camargue notamment. Donc mais faut pas
loin
le dire
du Venezuela,
faut pas le dire trop fort, et d'ailleurs ça se voit pas tellement dans le film, quand même remarquablement fait. C'est une réflexion quand même sur l'enfer capitaliste et sur le fait que des hommes sont amenés à risquer leur peau pour 3 francs 6 sous et que d'une certaine manière le capitalisme écrase ceux qui n'arrivent pas à accéder à une échelle sociale suffisante. Donc c'est vraiment il y a à chaque fois quand même chez Clouseau cette volonté de montrer son temps, que ce soit comme on l'a dit tout à l'heure, les dénonciations pendant l'occupation, que ce soit l'après-guerre, le marché noir, les trafics, les combines, les règlements de compte dans Manon, ou le départ en Israël des premiers colons israéliens qui se font massacrer quand ils arrivent. C'est une scène extraordinaire qui fait toute la dernière partie de Manon. Il y a très souvent chez lui quand même cette espèce d'espace documentaire qui est évidemment trafiqué, qui est évidemment de la mise en scène, et de la grande mise en scène, mais qui lui permet de témoigner avec une certaine, avec un courage certain, des fléaux de la société de son temps.
C'est l'heure de la peur, c'est aussi une illustration du sadomasochisme. Là, on l'a entendu dans l'extrait entre Montand et Vanel.
Oui, et puis aussi d'une homosexualité latente. Hein,
oui,
bien sûr. Oui. Mais c'est un film qui fait. On pourrait trouver que c'est un film macho. Moi, je trouve que en même temps, c'est un film qui fait le procès du machisme. C'est un enfer aussi parce qu'il n'est peuplé que d'hommes et que le seul personnage un peu lumineux, joué par Vera Clouseau,
un peu folle,
ouais. est en même temps écarté de ce monde qui est un monde. En fait, c'est un enfer matérialiste. C'est l'enfer de l'homme sans Dieu. C'est l'enfer capitaliste.
Alors, au milieu de toutes ces horreurs, on va faire une petite récréation avec Miquette et sa mère. Vous adorez
enfin.
Ce film, enfin, qui est un hommage au théâtre, qui est la première pièce qu'il a vue lui petit. Hein, on est d'accord.
Tout à fait.
C'est sur une jeune fille de province qui va monter à Paris avec un vieux grigou qui va lui proposer de l'accompagner mais qui veut en faire sa maîtresse. Et lui, c'est l'immense Saturnin Fabre. On écoute un extrait de Miquette et sa mère.
Tenez, simplifions. Vous êtes Miquette, je suis Lambin.
Vous êtes Miquette, je suis Urbain.
Non, la chaîne ne comprend rien. Enfin, simplifions encore. Supposons qu'il s'agisse de vous et de moi. Si je vous disais de point ouvrez les guillemets, Madame Grandier, vous me plaisez infiniment et je vous plais beaucoup, je vous demande votre main. Nous vivrons très heureux et nous n'aurons pas du tout d'enfants. Qu'est-ce que vous répondriez?
Je répondrai non.
Mais pourquoi je vous le demande? Vous êtes une brave femme, parfaitement digne de nous.
Ma belle-mère était née Pichot.
Pichot? C'est épatant, sans compter que vous avez de beaux bras.
Marquis.
Dans cette robe, vous feriez une figure magnifique à la Turbiande. Allons, Madame Grandier, vous serez ma femme. Je le veux.
Oh, je dois rêver.
Eh bien, Madame de Mortefontaine, ça dort là-dedans?
J'arrive.
Ben, c'est avec à vous.
La flotte anglaise est en feu.
La flotte anglaise est en feu.
Oui, je sais.
Mais la flotte anglaise est en feu.
Oui, soyez les soldats du comte de Soissons.
Elle flambe. Elle flambe.
Acceptez, Herminie.
Herminie, vous m'avez rendu mon petit nom il y a 15 ans qu'il était perdu.
Et moi, vous m'avez rendu bien mieux que ça.
Pardon.
Hier, j'étais trop jeune, il y a 10 minutes, j'étais trop vieux maintenant. J'ai mon âge.
Mon bon ami.
Herminie, appelez-moi Aldebert et embrassez-moi.
Aldebert.
Ça a l'air démodé, Noël Herbe, mais en fait c'est super moderne ce film Miquette et sa mère. D'ailleurs, vous lui avez consacré un livre avec le texte de la pièce et que vous préfacez chez Universitaire de Nanterre. Un très joli petit livre à la couverture mort doré. Pourquoi vous aimez tant ce film?
Parce que pour moi, c'est le secret, c'est le Rosebud de Clouseau. Je pense que, en fait, il a un amour, il a une cruauté apparente, on vient d'en parler pendant un petit moment, mais je pense qu'il a une vraie nostalgie de l'innocence.
Il a un bon fond.
Il a un bon fond, au fond. Et peut-être que son innocence, il la trouve dans le théâtre. Il a aimé ce théâtre-là, c'est la première pièce qu'il a vue avec Max Derli, Ève Lavalière, etc. Donc il a été bercé là-dedans, et il a envie de retrouver l'innocence de ce théâtre-là. Et il le fait, hélas, il peut pas s'en empêcher auprès d'une certaine cruauté, puisqu'il va nous donner à voir dans la dernière partie du film, quelque chose qui n'est pas dans la pièce, qui est une représentation de patronage, qui est extrêmement cruel, on en a entendu quelques échos, et extrêmement mordant.
Regarde.
Mais c'est au prix de cette espèce de massacre symbolique qu'il arrive à ressusciter l'innocence des personnages du vaudeville 1900. Et je trouve cet effet dialectique très touchant. Et souvent chez Clouseau, il y a cette dimension de nostalgie de l'innocence, et il y a aussi l'humour. C'est aussi ça que j'aime dans Miquette. Il faut préciser qu'il l'a fait avec quelqu'un qui était génial, c'est Jean Ferry, qui était un pataphysicien, qui a travaillé plus tard avec Jean-Christophe Averty. Et les films écrits avec Jean Ferry, notamment Quai des Orfèvres aussi, sont marqués par cet amour du théâtre, parce qu'il y a aussi dans Quai des Orfèvres, l'hommage au théâtre dans son côté miteux, minable et en même temps très touchant, hein, un musical de quartier dont il ressuscite les fastes un peu fanées. Et voilà, donc il y a ce côté nostalgique et il y a ce côté ironique qui, à mon avis, sont une autre porte d'entrée dans l'univers de Clouseau que les grandes orgues de la cruauté.
Avec des dialogues étincelants à la Janson. Enfin bon, c'est des dialogues extrêmement bien écrits.
Et puis une direction d'acteurs extraordinaire. Oui. Jamais Saturnin Fabre. C'est-à-dire qu'il pousse les acteurs dans leurs conventions, il les pousse dans leurs clichés, il les pousse à se caricaturer.
Oui, caricature.
Et Saturnin Fabre n'a jamais été aussi. Daniel Delorme faisait ses débuts, elle a jamais eu un rôle. Il l'a beaucoup fait souffrir, hein, mais elle avait quand même mis par contrat qu'il ne pouvait pas porter la main sur elle, parce qu'il avait déjà cette réputation.
Oui.
Donc elle est arrivée à se faire respecter, mais il arrive à en faire une espèce de poupée désarticulée, comme ça. Et quant à Bourvil, il a jamais été aussi génial que dans ce film.
En bonnet.
Retour à la noirceur, pardon, mais avec la vérité, bien sûr, une jeune femme très séduisante jugée pour le meurtre de son amant, chef d'orchestre prometteur qui était promis à la sœur de cette jeune cette femme, Dominique, et elle, c'est Bardot. Je vous propose d'écouter un extrait du film Charles Vanel, l'avocat, et le morceau de bravoure de Bardot, raconté également par Bardot dans ce doc, le scandale Clouseau de Pierre-Henri Gibert, qui sera diffusé le 15 novembre sur Arte.
Durant des mois, celle-ci mendie, meurt de faim, se prostitue. Mais oui, se prostitue. A-t-il eu un geste pour la sortir de la boue? Non. Et vous appelez ça de l'amour? Une nuit, elle arrive à implorer son pardon. Il la buse sur ses sentiments. Il laisse renaître en elle l'espoir pour profiter d'elle encore une fois. Et il la congédie comme une fille. Elle revient. Elle lui dit son intention de disparaître. Il la met au défi de tirer. Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas.
Mais si Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus.
Cette scène a été tournée une seule fois. Je ne pouvais donner le meilleur de moi-même que dans la première émotion. Bon, contrairement justement aux comédiens de métier qui peuvent se aller de mieux en mieux au fur et à mesure qu'ils refont des scènes. Moi, c'était impossible. Donc, Clouseau m'a mise dans une espèce de condition de désespoir juste avant le tournage.
J'empêchais Brigitte Bardot de répéter. Et je l'achetais un petit peu devant, après l'avoir baratinée, pour qu'elle soit dans l'état nerveux en question. Je la précipitais devant la caméra et la première prise était la bonne.
Il a dit moteur et j'ai joué.
Je verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez. Parce que vous êtes tous morts. Morts!
Ces injures sont intolérables. C'est un scandale.
Aussi, pourquoi pousser cette malheureuse à bout? Voilà le scandale.
Si vous cherchez un incident.
Votre cruauté est indigne de la robe que vous portez.
Qu'est-ce que vous dites?
Messieurs, messieurs, il est 7h30. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 13h. Garde, emmenez l'accusé.
La vérité de Clouseau, une grande actrice, Bardot, mais à quel prix, Noël Herr?
Oui, je crois même qu'il lui faisait... Alors, je crois pas que ce soit au prix des coups, hein, comme on le prétend. Je crois qu'il y avait toute une légende sur Clouseau battant ses actrices ou ses acteurs. Bon, cela dit, vous verrez dans l'exposition...
Il en a giflé certains.
Il y a eu une gifle à Bardot, ben et oui. Qui a dit plus jamais ça. Et,
oui, il a giflé surtout Bernard Blier. Oui. Donc, il giflait pas que les femmes.
C'est vrai.
De ce point de vue-là, il était paritaire. Et puis, il y a, vous verrez dans l'exposition un scoop. Peut-être que je vais pas vous le dire, parce que j'ai peur que l'exposition soit interdite. Mais ça va être... c'est un document assez spectaculaire où l'on voit Clouseau rudoyer une actrice débutante en direct, et c'est assez impressionnant. J'ai tendance à penser qu'il le faisait pour servir sa légende. C'est-à-dire qu'il le faisait parce qu'il savait qu'il était filmé, ou parce que les journalistes étaient autour. Je suis pas persuadé qu'il était quelqu'un de si...
Quelles que soient les raisons, il y a le résultat quand même qui est là. Quoi.
Oui, enfin, le résultat. Et le résultat, c'était aussi qu'il voulait mettre les acteurs en condition physiquement. Par exemple, Jean Lefebvre, c'est aussi une archive qu'on montre dans l'expo, Jean Lefebvre raconte qu'il l'a saoulé pour faire la scène du Truffion ivre dans Les Diaboliques. Donc il y a toujours cette volonté de mettre l'acteur en condition, et à côté très acteur studio chez lui, hein, que l'acteur se sente psychologiquement
si
et physiquement.
Si on veut capter la souffrance de l'acteur, il faut le faire souffrir.
Voilà,
il l'a bien dit. Voilà. Et est-ce qu'elle a fait une tentative de suicide, elle, en sortant de la vérité, Bardot? C'est ce qu'on dit.
Oui, il y a eu une tentative de suicide, mais je pense que c'était pas ça seulement lié à Clouseau. Elle avait traversé une vie sentimentale compliquée à ce moment-là.
C'est pas la première, c'est pas la dernière.
C'est pas la, voilà, absolument. Je pense. À mon avis, il faut peut-être un peu nuancer et relativiser la réputation tyrannique de Clouseau. J'ai l'impression que les médias ont fait beaucoup de buzz autour de ça, comme on dirait aujourd'hui. Lui a alimenté
ça.
Dans le catalogue de l'exposition, nous avons un texte très bien là-dessus qui montre à quel point Clouseau construisait sa légende. Parce que c'était le modèle, c'était Stroheim. Hein. C'était le metteur en scène que vous aimeriez haïr. Et il préférait peut-être se faire haïr que se faire aimer. Il se disait, je vais imprimer dans les esprits, grâce à cette image du metteur en scène sadique. Je suis pas sûr qu'il était si sadique que ça, au fond, avec ses acteurs, et en tout cas certains savaient se faire respecter.
Noël Herp, il a quand même mis en scène la maladie cardiaque de sa femme Vera dans Les Diaboliques, cette fameuse scène de la salle de bain.
Oui, alors il y a effectivement cette volonté d'utiliser l'état physique de ces comédiens. En effet, ça c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant. C'est la manière dont il a utilisé la maladie de Vera Clouseau pour ce film. Bon, j'aurais pas de détails à vous donner là-dessus. Je sais pas jusqu'à quel point. En tout cas, il est certain que ce qu'il aime là aussi, mais c'est ça qui me paraît le plus important, c'est mettre en scène son intimité. Il y a un côté, je dirais plutôt un côté exhibitionniste. C'est surtout ça qui me paraît frappant. Par exemple, quand il part en Amérique du Sud pour faire ce film sur le Brésil et que ça marche pas, puisqu'il avait un peu sous-estimé la difficulté, il va faire un petit film que nous montrons aussi dans l'exposition, qui s'appelle Brésil, qui est un film de 10 minutes, et où il met en scène, il reconstitue l'opération à cœur ouvert de sa femme, à travers évidemment un système, là aussi, un côté docu-fiction un peu bidonné. Mais voilà, il ose des choses. Je connais guère que Sacha Guitry, qui était aussi loin dans l'exhibition de son intimité. Il se met en scène dans tous les aspects de sa vie.
On va finir avec ça, avec L'Enfer, qui est un film inachevé de son vivant à lui, qui est une introspection dans la jalousie. Vous parliez de, effectivement, à la recherche du temps perdu au début de cette émission, mais c'est un travail aussi sur le temps, ce film.
Sur le temps et sur la jalousie, et puisqu'il la reprend jalousie. Évidemment le thème de la jalousie, il l'emprunte à Proust. En fait, c'était plutôt Vera qui était une grande jalouse, et donc il a transposé aussi cette dimension de sa vie privée dans le film. Après la mort de Vera, il va donc se lancer dans ce projet fou.
Fou. Une expérience de picturale incroyable.
Non pas tellement par le thème psychologique qui était en effet connu dans la littérature et répertorié, mais par le fait qu'à côté de ça, il va imaginer des images mentales, des effets d'hallucinations sonores, des effets d'art cinétique. Et c'est le moment où il tombe un peu dans le chaudron de la modernité. Pour le meilleur et pour le pire. Peut-être qu'il s'en sort pas indemne, mais ça donnera au moins un film intéressant qui est La Prisonnière, qui est son dernier long métrage, et où il y a des magnifiques... Enfin, c'est quelqu'un quand même qui filme l'art comme personne. Il faut aussi rappeler le Mystère Picasso.
Oui, bien sûr.
Il filmait le geste artistique d'une manière absolument géniale. Je ne dirais pas qu'il nous a fait pénétrer dans la conscience du génie qui était Picasso, mais il nous montre la trace de son geste, la beauté de son geste. Là aussi, ça nous ramène toujours à des questions de mise en scène. Picasso, finalement, devient un acteur, et ça a été qui a donné à voir cet acteur mieux que Clouseau. C'est-à-dire qu'il montre une sorte de fausse vérité qui se révèle toujours artificielle. C'est un peu comme un suspense à la Clouseau. On croit toujours que ça va être le vrai tableau de Picasso, et en fait, il y a toujours un tableau derrière le tableau, il y a toujours une vérité derrière la vérité. C'est peut-être un peu la leçon paradoxale du cinéma de Clouseau.
C'est la grande année Clouseau, anniversaire de sa naissance à Niort en 1916, de sa mort à Paris en 1977. Ça a commencé à Cannes Classique, au Festival Lumière qui vient de s'achever. Alors, il y a les expos, il y a le Mystère Clouseau au musée Picasso jusqu'au 28 janvier, à la Cinémathèque du 8 novembre au 29 juillet, dont vous êtes le commissaire, cette exposition plus une rétrospective intégrale. Il y a le catalogue qui est magnifique, le collectif donc sous votre direction, Noël Herp. Il y a la ressortie en salle à partir du 8 novembre par les Acacias de l'intégrale au Champollion, au Luxor, au MacMahon, à Paris Plus en région. Il y a le doc, le scandale Clouseau de Pierre-Henri Gibert sur Arte le 15 novembre, mais également dans le coffret DVD de 12 films restaurés plus les bonus.
Et puis TF1 Vidéo.
Il y a ce petit livre qu'on aime beaucoup, qui est Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouseau, de Chloé Follens.
Aux éditions Vendémiaire.
Votre petit livre, Miquette et sa mère.
Presse universitaire de Nanterre. Toutes ces références sur notre site, évidemment.
On se retrouve pour les sorties après Lloyd Carner.
I kinda miss my student loan. I've been sitting in the student home, sharing stories now. I sim and sipping sort of wrong, walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake. Living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way. Like it's the great escape, brothers do better than me. I'm in a hurry, worried, what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every song the same, and I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, check. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and your can't do sons. Up in the rubble raising trouble, what you can't do is run. And trust, I feel it, I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying this I should've quit but couldn't resist. And now they sit with a lark, a little luck and a wish. But trust they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slip, stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they gasp why every f***ing song the insane, man. I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Trust cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed, say it ain't nothing changed. Nah, nah, cause us ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed.
Les sorties de ce mercredi, on va commencer par lui pour le réconfort. Première mise en scène cinéma de Vincent Macaigne avec sa bande d'acteurs. Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des années de voyage et se retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Une réflexion, Laurent, sur l'héritage, sur une génération. Un film tourné en 10 jours avec une petite caméra numérique, sans scénario et presque sans équipe, est-ce possible?
Mais oui, c'est possible et le résultat est tout à fait intéressant avec un titre merveilleux, Pour le réconfort. C'est un très très beau titre, je trouve. C'est le plus beau titre de cette semaine, peut-être. La question, c'est effectivement que faire pour durer et pour laisser une trace. Alors, d'accord. C'est un film bancal, c'est un film malaisé, c'est un film rugueux, c'est un film rude, parfois trop bavard dans des scènes de groupe notamment, mais, il est souvent exact. Souvent très très juste, Vincent Macaigne, il arrive à saisir un air du temps qui est effectivement dans cette France moyenne qu'on oublie en ce moment pas mal, pavillonnaire, oublié de l'entre-deux, et qui se demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ça va être la trace que je vais laisser? Avec un vieux punk à chien à un moment, qui est le sage de la montagne, qui arrive dans cette communauté et qui dit, la vieillesse c'est l'avenir. Méditez bien cette phrase, elle est le plus profonde qu'on ne peut penser. Non, franchement, le miroir que nous tend Macaigne, pour aussi mal aisé et rugueux qu'il soit, est un miroir, ben je crois qu'il faut regarder, si on a envie effectivement d'être un peu lucide sur soi-même. Alors c'est du Vincent Macaigne, c'est-à-dire que c'est jamais là où on l'attend, et c'est toujours sur le fil du rasoir.
Ça s'appelle donc
Pour le réconfort.
Logan Lucky, de Steven Soderbergh, qui avait juré d'arrêter le cinéma, mais qui a retrouvé l'appétit avec ce scénario enthousiasmant. L'histoire d'un casse dans sa Virginie natale, pas un casse 5 étoiles comme la série Ocean 11, 12, 13, mais plutôt chez les déclassés et les Américains pauvres, deux frères losers, Jimmy, c'est Channing Tatum, un acteur qu'il a révélé, lui, Soderbergh, et sa blessure au genou qui a interrompu une carrière prometteuse de footballeur. Et Clyde, son frère, c'est Adam Driver, revenu d'Irak, un bras en moins, plus leur sœur coiffeuse. Jimmy vient d'être licencié du chantier et convainc sa famille de voler la recette d'une très grande course automobile pour se remplumer à vie. Et pour ouvrir le coffre-fort, ils font appel à un spécialiste, et ça, c'est la grande surprise, c'est Daniel Craig, coiffure peroxydée, qu'il faudra en même temps faire évader de prison. Le film est réjouissant dans la description de ses personnages hauts en couleur. Il les aime tous et il est aussi fort en rebondissement scénaristique, plus l'humour, plus la critique politique sous-jacente de cette Amérique. Jamais on n'aura été autant du côté des braqueurs pour qu'ils réussissent enfin ce casse contre le système. Sans adieu, Laurent, c'est un film de Christophe Agou qui est disparu depuis, donc c'est un film posthume. Dans sa ferme du Forez, Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle. Bref, c'est un peu un film sur le sous-prolétariat rural.
Exactement, c'est peut-être pour moi en tout cas ce qu'il y a de plus beau à voir cette semaine au cinéma. Alors l'explication quand même du titre, qui est un beau titre là aussi, Sans adieu, c'est ce que dans le Forez, puisque le film se passe dans le Forez, on dit pour dire surtout ne pas dire adieu, parce que explicitement adieu ça veut dire adieu, hein, c'est au paradis ou en enfer, on ne sait pas. Et on dit donc sans adieu, c'est-à-dire qu'on se dit au revoir, mais surtout pas d'adieu. Je trouve cette formule très très belle, et elle dit d'autant plus que le film, que à contrario scénario. Le film ne cesse de filmer des cérémonies, des adieux, justement, avec la vie, parce que il y a Claudette, mais il y a aussi ce couple qu'on oblige à vendre des vaches malades, ce frère qui pleure son frère parti et qui va lui aussi être obligé de quitter sa ferme. C'est dans le droit fil de ce qu'a réalisé Raymond Depardon avec La vie moderne, c'est-à-dire ce portrait incroyable de ce lumpen prolétariat paysan, effectivement, qui ne cesse de mourir, qui ne cesse de nous dire aussi, peut-être à nous, des choses qu'il faudrait écouter un peu plus, parce que tout ça est profondément humain, profondément politique aussi. C'est vraiment un grand, grand film politique. Et le réalisateur y met, je crois, tout de lui, avec une attention aux autres, une attention aux choses, une attention aux animaux, une attention aux êtres humains qui est proprement sidérante. Ça s'appelle Sans adieu.
Brooklyn Yiddish de Joshua Weinstein, sans rapport avec l'autre.
Oui,
lui, il vient du documentaire et cela se sent dans sa façon de filmer cette histoire qui paraît si réelle. Et en fait, elle l'est puisque le réel s'est inspiré de la vraie vie de son acteur principal, Menaché Lustig, modeste employé d'une épicerie dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menaché se bat pour la garde de son jeune fils Ruben après la mort de sa femme, mais la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Son fils est confié à son autoritaire beau-frère, jusqu'au jour où le rabbin, dans sa grande clémence, va lui octroyer une semaine avec le jeune Ruben, un film entier dans un microcosme étouffant, ses mœurs, ses rites, et cet homme au milieu, partagé entre sa foi et son amour, parfois maladroit, pour son jeune fils, tellement sincère, comme ce film, subtil, lumineux et si tendre envers son protagoniste. Ça s'appelle Brooklyn Yiddish. On aime bien les films cette semaine.
Quand ils sont bons, on aime bien les films, c'est tout. Voilà.
Des bobines et des hommes de Charlotte Pouche. C'est un documentaire. En juin 2014, le patron de l'usine textile Belmaille, leader européen de la création et fabrication de tissus, annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de l'entreprise et elle a accompagné au fil des jours les salariés du redressement à la liquidation de l'usine.
Mais oui, mais le réel est toujours plus fort que la fiction, c'est une nouvelle preuve, parce que l'usine qu'on voit, ça servait de décor à un film d'Olivier Lousteau qui s'appelait La fille du patron, qui est une comédie sociale un peu emberlificotée sur le travail, et là, le retour du réel est fort dans cette entreprise, parce qu'effectivement, elle est en liquidation, et ça se passe très mal, comme il se doit, j'allais dire. On est au plus près des ouvriers qui sont en train de tous voir leur vie fracassée, et le petit patron qui se présente comme une sorte de petit saint qui aimerait bien tout faire bien, est en fait un patron voyou. Et les images sont incroyablement fortes de ces ouvriers à qui on retire progressivement leur raison d'être, leur travail, leur dignité tout simplement. On songe au canut, oui, au canut lyonnais, et on se dit que l'histoire n'a guère changé, les machines vont partir ailleurs pour broyer d'autres vies humaines, et pendant ce temps-là, sur le carreau, resteront ces hommes et ces femmes dignes, mais privés de toute dignité en même temps. Ça s'appelle « Des bobines et des hommes ».
Corps et âme, c'est un film hongrois de Ildikó Egyedi, pardon.
Merci.
Quel drôle de film et quelle idée magnifique au cœur de cette histoire, une rencontre dans un abattoir entre deux grandes solitudes, son directeur et sa nouvelle responsable du contrôle qualité. À l'occasion d'un test psychologique, ils vont s'apercevoir qu'ils font tous les deux séparément le même rêve toutes les nuits, celui d'un cerf et d'une biche réunis dans une forêt enneigée. Et ce rêve partagé va les rapprocher peu à peu pour peut-être vivre cet amour qui les unit la nuit. Vivre un amour par la puissance du rêve. Et je répète, une idée magnifique au cœur de ce film. Vous êtes moins...
Oui, nous divergeons. Ouais. Ah, la belle bête à concours de festival qui nous est proposée avec ce corps et âme. Mais si, tout y est. À la fois, alors un peu de réalisme avec évidemment un énième reportage sur la façon dont on abat les pauvres vaches dans les abattoirs en ce moment. Et puis en face, effectivement, ce couple, cette biche se serre dans une nature idyllique. Vous souvenez de Two Lovers de James Gray? C'était l'histoire d'un neuneu et d'une timide. Et bien là, c'est l'inverse. Il y a une neuneu et un timide face à face. Est-ce que ça fait un film pour autant? J'en suis pas certain, parce que à force de multiplier les petites choses, les petits faits vrais, les petites partous entre amis sur un lieu de travail, etc., ça finit par effectivement ressembler à un catalogue, certes vertueux, de toutes les bonnes intentions qu'on pourrait bâtir sur une histoire d'amour improbable.
Pour moi, c'est pas une neuneu, c'est juste une femme frustrée depuis l'enfance.
Elle est quand même
avec un gros traumatisme, et lui est un acteur absolument magnifique, qui n'est pas du tout acteur dans la vie et qui est éditeur en Hongrie. Extrêmement émouvant, cette démarche vers l'amour.
Bon,
voilà.
Nos auditeurs iront faire une idée.
On va terminer par leçon de classe de Jan Ebrek. Alors, une comédie dramatique tchèque et slovaque, Laurent.
Oui, ça se passe en 1983, juste avant, évidemment, la chute du communisme. Alors, c'est un film assez vertueux qui dénonce effectivement la façon dont une enseignante se sert de son pouvoir et de son métier, de son magistère, pour faire pression sur ses élèves et leurs parents, surtout pour les faire chanter. Alors, quand on a dit ça, tout d'un coup, on dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans du baccalauréat, par exemple, de Christian Mungiu, ce chef-d'œuvre qu'on adore ici? Eh bien, justement, oui, c'est un peu trop la réminiscence de ce beau cinéma roumain très très présent à nos yeux et très important. Et hélas, ce film n'en a pas la force et surtout pas la force cinématographique, car c'est cela qui manque à Leçon de classe, c'est quand même d'être un peu plus dans du cinéma. Le fond est intéressant, la forme est quasiment inexistante. C'est dommage.
On va terminer, Laurent, avec un double petit cadeau pour Noël Herp, notre invité. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ce sont deux volumes d'une nouvelle collection.
Exactement. Suspense. Non, ce sont les très belles éditions Vendémiaire qui viennent de publier une nouvelle collection avec deux monographies sur des films. Avec les deux premières monographies, c'est Rebecca d'Hitchcock par Jean-Loup Bourguet et Fantomas de Feuillade par Benjamin Tron. Et c'est une très très belle une très belle approche des films. Il y a des interprétations, des lectures, on parle de l'histoire, etc. C'est vraiment une bonne introduction au film qu'il faut évidemment aller voir et revoir ensuite. Mais on manque de ce genre de monographie, je trouve, en France. Voilà, ça s'appelle. Voilà, ce sont les collections. Beaucoup. La collection est chez Vendémiaire.
En plus que ce sont deux films que j'adore.
C'est ce que j'avais demandé.
Il m'arrive même parfois de me déguiser en Fantomas.
Ah, c'est vrai, c'est vous. On me l'avait dit.
Vous déguisez en Fantomas.
Oui, je fais des ciné-concerts où je me déguise en Fantomas.
C'est pas vrai.
Je me fais kidnapper par l'inspecteur Juve.
Non.
Avis aux amateurs. C'est un peu bondage aussi.
Le prochain, c'est quand?
Quand vous m'invitez à le faire chez vous, c'est pas grave. Quand vous voulez.
Incroyable.
On en découvre tous les jours.
D'ailleurs, Fantasme et Fantôme, c'est le titre de votre nouveau film qui est sorti le 4 octobre. On peut le voir un petit peu en salle encore ou pas?
Oui, à l'entrepôt. Il y a encore quelques séances et il va tourner un peu en région.
Alors, on va voir tous les deux, donc encore les dernières informations par rapport à cette année Clouseau, il faut bien répéter. On a hâte d'être au 8 novembre pour cette fameuse expo à la Cinémathèque dont vous êtes le commissaire et bien sûr la rétro intégrale.
Et dont on peut dire quand même que nos amis provinciaux de province peuvent lire le très beau catalogue que la Cinémathèque et les éditions Lienard publient et qui est un très beau reflet de la
Je l'espère, en tout cas il m'a demandé du travail et voilà. J'avoue que je suis fier de tous les textes et il y a des très beaux textes de Thomas Clerc, de Bertrand Schaeffer et un entretien avec Olivier Assayas qui nous parle d'un autre Clouseau, d'un Clouseau plus expérimental. Et ça me semble un regard un peu décalé qui est tout à fait enrichissant.
Et un autre livre, Les Métamorphoses de Rue-Georges Clouseau de Chloé Follens, une jeune femme extrêmement...
Jeune normalienne très brillante.
Très brillante, ouais. Très. Une ressortie en salle, je le disais, et le doc sur Arte à partir du 15 novembre est dans le coffret des ressorties Clouseau.
Oui, absolument, avec notamment le documentaire dont nous parlions.
Merci beaucoup Noël Herp, vraiment, c'était
Merci
très intéressant
vous.
De parler
Merci
de Clouseau avec vous. Et c'est à vous pour le générique, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par David Jakubowicz. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Noël Herp, j'y étais.